Vous écoutez, on lit pour vous.
Les expériences de volontariat séduisent aussi les retraités, un texte de Sarah Collardet, paru le 15 décembre 2025 dans Le Devoir. Une ferme biologique au Québec, un refuge animalier en Équateur, un projet écologique au Portugal, la retraite offre un passeport pour l'inconnu. De plus en plus de personnes dans la soixantaine partent à l'aventure avec des organismes de volontariat, une tendance longtemps associée aux jeunes voyageurs. Selon Rodolfo Montu, responsable marketing chez World Packers, une plateforme qui met en relation des voyageurs avec des hôtes dans le monde entier, ce type de voyage est pratiqué historiquement par des personnes âgées de 18 à 35 ans. Toutefois, l'organisme observe aujourd'hui une participation croissante des familles, des professionnels en milieu de carrière et des retraités. Une évolution qu'il décrit comme l'une des tendances les plus inspirantes. À Montréal, Caroline Gélina, retraitée depuis 5 ans, cherchait quelque chose pour occuper sa retraite parce qu'elle avait du temps et de l'énergie, mais aussi pour donner au suivant. En naviguant en ligne, elle découvre l'organisme Workaway qui met en relation des voyageurs avec des hôtes, familles, associations, entreprises, à travers le monde entier, et part en voyage 2 années de suite. En 2022, en Équateur, pour du volontariat dans un refuge de chiens et de chats, puis aux États-Unis en 2023, pour un ménage de printemps chez une Américaine qui avait besoin d'aide. Un rêve. À la soixantaine, plusieurs personnes souhaitent donner du sens à cette nouvelle étape de vie. Leurs enfants ont grandi, elles ont pris leur retraite ou elles souhaitent simplement vivre une nouvelle aventure qui a du sens. Nous avons eu des bénévoles dans la soixantaine qui ont planté des arbres au Costa Rica, aidé des organisations non gouvernementales en Tanzanie ou soutenu des projets écologiques au Portugal, illustre M. Montu. Pour d'autres, c'est l'occasion de réaliser un vieux rêve. Muriel Missé, 57 ans, installée au Québec depuis 37 ans, a travaillé toute sa vie à son compte, à la tête d'une entreprise dans le textile. « Depuis toujours, je voulais voyager à temps plein, dit-elle, mais ses obligations professionnelles et familiales l'en empêchaient. Dans les dernières années, quand elle le pouvait, elle a pris quelques congés pour faire du volontariat dans des fermes biologiques avec l'organisme WWOOF, l'acronyme de Worldwide Opportunities on Organic Farms, qui met en relation des bénévoles, WOOFers, avec des fermes biologiques dans le monde entier. Je voyage, puis à un moment donné, je m'ennuie. Je me dis, ben qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je vais voir le site de WOOF, mais je suis toujours dernière minute. Je ne planifie jamais rien, raconte-t-elle. En 2023, Mme Missé met en vente son entreprise et sa maison et aménage sa camionnette pour pouvoir y vivre et réaliser son rêve, parcourir la route panaméricaine qui va de Prudhoe Bay en Alaska à Ushuaia en Argentine. Des événements familiaux l'ont obligée à mettre son rêve sur pause et à revenir au Québec. Elle vit toujours dans sa camionnette, mais fait régulièrement du woofing lorsqu'elle veut rencontrer des gens ou en hiver lorsqu'il fait trop froid pour dormir dans son véhicule. Échange et partage. Originaire du bas du fleuve, Brigitte Nadeau, 60 ans, vit à Toronto depuis 35 ans. Elle fait du volontariat dans des fermes avec l'organisme WOOF depuis juillet 2023. J'avais le goût de faire une expérience et d'apprendre, explique-t-elle. À raison d'une fois par an, elle part à l'aventure dans des fermes québécoises pour retourner à ses sources, ayant grandi à la campagne, mais aussi pour voir sa famille. Il y a tellement d'opportunités d'apprendre la cultivation de la terre, l'élevage des animaux ou les plantes médicinales, affirme-t-elle. C'est extraordinaire, tout ça. Selon elle, ces expériences permettent d'apprendre des autres, ce qui est très bénéfique. Mais aussi, quand tu as 60 ans, tu en as du vécu, puis ce vécu peut être partagé avec d'autres, avec des jeunes aussi, des jeunes fermiers. Donc, c'est vraiment une opportunité d'échange culturel, ajoute-t-elle. Madame Gélina évoque également un échange culturel. D'un côté, elle apprend l'anglais à des enfants, ou encore elle soigne des animaux en refuge. De l'autre, elle en apprend beaucoup sur la culture du pays dans lequel elle voyage, étant hébergée par des locaux qui lui donnent souvent des recommandations de lieux à visiter, méconnus des touristes. J'apprends déjà des modes de vie différents. J'apprends à cultiver, à cueillir, à transformer. J'apprends beaucoup, souligne pour sa part Madame Missé. Mais surtout, j'apprends sur moi et le rapport avec les autres. Le woofing se définit comme un échange éducatif au sujet des pratiques agricoles écologiques et des modes de vie durable, explique Catherine Dallaire, coordinatrice chez WOOF Canada. C'est aussi un échange culturel entre des gens qui viennent de toutes sortes d'horizons. Elle qualifie ce concept d'unique au monde. Du côté de World Packers, M. Montu résume l'expérience en termes d'immersion et de croissance personnelle. Le volontariat permet de vivre au rythme d'une communauté et de voir à travers les yeux des habitants. Les personnes peuvent acquérir de nouvelles compétences, des langues à la permaculture, en passant par l'hospitalité ou les outils numériques, qui souvent façonnent notre vie bien au-delà du voyage, ajoute-t-il. Accessibilité. Dans le cadre de ses missions, Madame Gélina n'a jamais reçu de rémunération, mais elle était logée et régulièrement nourrie. C'est sûr que ça m'arrangeait financièrement, reconnaît-elle. Selon elle, le concept du voyage est souvent pensé pour deux personnes, notamment les hôtels. Le fait d'être logé permet ainsi de réduire la facture du voyage. Elle précise toutefois que ce n'est pas sa motivation principale. Madame Missé abonde dans le sens de Madame Gélina. Le woofing, ou les échanges de services contre un hébergement, est un moyen accessible de voyager, mais ça reste dans le cadre d'un échange de services, d'un travail. Elle ne voyage pas de cette façon pour des raisons économiques, mais s'estime chanceuse de ne pas avoir besoin de se préoccuper de cet aspect pendant ses voyages. M. Montu met en avant l'accessibilité, sans vouloir parler de voyage à moindre coût. Les voyages traditionnels peuvent être coûteux, mais lorsque vous échangez votre temps et vos compétences contre un hébergement, des repas ou un apprentissage, le monde devient beaucoup plus accessible. Fraîchement retraitée depuis quelques semaines, Madame Nadeau espère avoir l'occasion de partir 2 à 3 fois par an, maintenant qu'elle a du temps libre. Elle aimerait aussi profiter de ses expériences pour voyager dans d'autres provinces comme l'Ontario ou la Colombie-Britannique, voire carrément d'autres pays. Elle rêve de visiter le Portugal, par exemple, et pense aller y passer 2 ou 3 semaines dans une ferme pour découvrir la culture. Muriel Missé espère pouvoir reprendre son projet de la route panaméricaine dans la prochaine année. Elle se donne 10 ans pour la parcourir. J'aime voyager, mais surtout, j'aime prendre le temps, conclut-elle. C'était « Les expériences de volontariat séduisent aussi les retraités », un texte de Sarah Collardet, paru le 15 décembre 2025 dans Le Devoir.
Les jeunes ont le droit de chiller. Un texte de Nathalie Boucher, Sarah Maud Cossette et Beverly Jacques, paru le 17 décembre 2025 dans la presse. Les auteurs chez Organisme Respire sont Nathalie Boucher, directrice générale et fondatrice, Sarah Maud Cossette, chercheuse, et Beverly Jacques, directeur exécutif et cofondateur d'IOD Basketball. Dans 2 récents articles, les journalistes de la presse rapportaient des événements à Verdun et à Brossard, respectivement, semblables à ceux sur lesquels nous nous sommes récemment penchés à Saint-Léonard en tant qu'anthropologues, géographes et intervenants communautaires. Les jeunes envahissent les commerces autour des écoles secondaires au dîner et après l'école, ont des comportements dérangeants, font des vols à l'étalage, causent le chaos. Ces incivilités mènent les propriétaires de commerce à adopter des politiques interdisant l'accès ou contrôlant le nombre de jeunes et leur circulation dans les établissements. Au-delà de la question des gangs de rue, des actes criminels, de l'hyperactivité des grands groupes de jeunes et de la discrimination liée à l'âge, dénoncée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, cette situation met de l'avant une question sociale plus systématique, rarement considérée. Celle de l'aménagement urbain, qui ne prévoit que très peu pour accommoder, animer, accueillir les jeunes qui sont aussi des citoyennes et citoyens à part entière, même en dehors de l'école et de la maison. En effet, au-delà des terrains sportifs, qui se réduisent comme peau de chagrin en hiver, et des maisons des jeunes, les jeunes de 12 à 17 ans n'ont pas d'espace où chiller le midi et après l'école. Chiller est une pratique assez inoffensive qui gagnerait à être tolérée malgré son absence apparente de productivité. Trop souvent associée au flânage, souvent interdit dans les lieux publics, chiller est en fait un moment dans la journée où les jeunes profitent d'un espace-temps social nécessaire à leur développement sans contrainte parentale ni scolaire. Notre recherche sur les pratiques des jeunes dans les parcs montréalais entre 16h et 3h du matin démontre que chiller est la principale activité des jeunes dans les parcs et que la consommation d'alcool et de drogue y est très peu associée. Chiller, c'est s'asseoir entre amis, relaxer, parler, écouter de la musique. Bienvenue nulle part. La ville offre très peu de lieux aménagés pour chiller. Les parcs ne sont pas toujours bien équipés, accueillants ou accessibles en hiver. Les maisons des jeunes, trop souvent fermées les soirs et les fins de semaine, faute de financement, ne peuvent répondre aux besoins de tous et toutes. Les bibliothèques et centres communautaires ont des politiques de comportement variées, certaines plus strictes que d'autres, ce qui peut parfois décourager les jeunes. La plupart des terrains sportifs intérieurs ou extérieurs sont réservés aux activités fédérées et ne peuvent pas accueillir des envies spontanées de bouger. Cette façon de fabriquer la ville, qui se reproduit partout en Amérique du Nord depuis la forte croissance des milieux urbains, repose sur l'idée que les jeunes sont soit la cause de vices, soit de potentielles victimes. Ces deux situations ne seraient pas souhaitables. Conséquemment, Ne rien prévoir pour les jeunes signifie les faire disparaître de l'espace public et tous les risques avec. Mais les jeunes ne peuvent pas magiquement disparaître, encore moins quand on les concentre dans des écoles très populeuses. Que leur reste-t-il donc? Dans notre recherche sur Saint-Léonard, nous avons nommé « espace négatif » tous les lieux publics où les jeunes pourraient se retrouver, mais où il est exclu qu'on y agisse comme jeune, en groupe animé à la sortie de l'école sans but précis, et donc où il et elle subissent de la discrimination. Les aires de jeux pour enfants, les stationnements, les espaces de circulation, les espaces vacants des parcs, la plupart des lieux de consommation destinés à une clientèle plus âgée, les cours d'école après les heures de classe, les institutions culturelles comme les musées et les lieux de culte. En somme, presque partout. Nous appelons donc les administrations urbaines et les professionnels de l'aménagement à faire le constat du manque d'activités sociales, culturelles et communautaires, du manque d'espace et d'infrastructures destinées aux jeunes, surtout autour des écoles secondaires, et à s'engager à offrir des espaces confortables, bien équipés, quatre saisons, qui vont susciter des rencontres sociales positives. Parce que ce groupe d'âge n'est pas homogène. Nous appelons à penser une variété de lieux, pas tous axés sur le sport, accessibles spontanément et gratuitement à toutes les heures. Nous invitons les autorités publiques à en faire plus pour les jeunes, notamment à célébrer et appuyer le travail des intervenantes et intervenants qui, avec peu de moyens, animent et accueillent les jeunes là où ils et elles sont. Les ados cherchent de la place, et plus particulièrement, leur place. À quand une ville où les jeunes auront leur place? C'était « Les jeunes ont le droit de chiller », un texte de Nathalie Boucher, Sarah Maud Cossette et Beverly Jacques, paru le 17 décembre 2025 dans La Presse.
Un traitement prometteur pour des maladies auto-immunes découvertes au CHU de Québec. Un texte de Marika Wheeler, publié le 13 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada. Dans une première mondiale, des chercheurs du Centre hospitalier universitaire CHU de Québec Université Laval ont découvert comment traiter et prévenir une maladie auto-immune chez des souris. L'amogade, qui a été découverte chez l'humain il y a environ 5 ans, s'apparente à la sclérose en plaques et agit comme le lupus et le syndrome de la personne raide. La découverte donne de l'espoir aux personnes atteintes par des maladies auto-immunes. Les patients atteints développent des anticorps qui attaquent leur corps et dégradent la gaine protectrice des neurones du système nerveux central, entraînant une inflammation. Les signaux envoyés sont donc bloqués ou perturbés, provoquant des crises et des symptômes sévères, parfois permanents, chez les patients. On a développé un nouveau médicament pour contrer les anticorps. C'est un médicament nouveau genre qui n'existe nulle part à travers le monde, qui pourrait être transposé pour traiter directement la maladie Mogade, mais qui pourrait être utile aussi pour toutes les autres maladies auto-immunes impliquant les anticorps. L'équipe, dirigée par le spécialiste en neuro-immunologie Luc Vallière, est parvenue à insérer une mutation, d'abord découverte par la compagnie pharmaceutique Sanofi, dans les anticorps qu'il compare à des missiles autodirigés. Les anticorps traités agissent donc de la même manière que les anticorps dommageables, se fixant à des protéines de la gaine de myéline, mais ils sont désarmés et ne causent pas d'inflammation. La découverte a récemment paru dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences. Nous, ce qu'on a fourni dans l'article scientifique, c'est une preuve de concept pour montrer que c'est possible de traiter une maladie auto-immune avec un anticorps inerte pour bloquer les sites. Ça peut être applicable à plein de maladies, mais il faut le démontrer. Le traitement a été validé chez des souris atteintes de la Mogade, mais reste à être démontré chez l'humain. Selon Luc Vallière, les résultats sont majeurs et porteurs d'espoir pour les patients. Ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la recherche, puis on fait toujours de belles découvertes, ça avance. Mais cette découverte est une percée dans ma carrière, explique l'homme qui dit avoir choisi le domaine pour tenter de trouver des remèdes pour les patients malades. Peut-être qu'il m'en arrivera jamais d'autres découvertes comme ça. Une lueur d'espoir pour les patients. Véronique Bérubé vit avec de la raideur dans ses jambes, un manque de flexibilité dans ses chevilles et poignets et une perte de force dans un bras, des séquelles de deux crises de sa maladie Mogad survenues depuis 2022. Elle décrit la découverte de l'équipe de Luc Vallière comme extraordinaire et une lueur d'espoir, d'autant plus que les médicaments qu'elle prend n'ont pas été étudiés spécifiquement pour sa maladie. Présentement, il n'y a pas de médicaments pour contrer les anticorps, dit celle qui explique sa maladie comme un coup de dé. Il n'y a rien qui dit que demain, ou dans 6 mois, ou dans 2 ans, je ne vais pas avoir une grosse rechute qui va faire en sorte que je vais me ramasser en chaise roulante. Ce ne sont pas des traitements curatifs présentement, donc ce serait génial. Isabelle Filteau, ingénieure de 47 ans, a dû complètement arrêter de travailler en raison des symptômes de son syndrome de la personne raide, la même maladie dont souffre Céline Dion. Elle se déplace à l'aide d'un déambulateur qu'elle nomme Johnny et subit des traitements à l'hôpital toutes les 2 semaines. Elle considère avoir de bons traitements pour ses symptômes, mais elle veut voir plus de recherches sur les causes des maladies auto-immunes. Dans ce but, elle a récemment fondé la Société canadienne des maladies auto-immunes. Il faut encourager les chercheurs parce que c'est la source du problème qu'il faut attaquer, dit-elle. Prochaines étapes. Pour appliquer les résultats de sa recherche chez l'humain, des compagnies pharmaceutiques doivent prendre la balle au bon, affirme Luc Vallière. Les chercheurs n'ont pas le financement nécessaire pour faire le travail, explique-t-il. Même si la Mogad est une maladie rare, il croit qu'une entreprise sera prête à investir pour développer un médicament, car c'est un tremplin vers un traitement pour d'autres maladies. Depuis la découverte, il y a plusieurs chercheurs qui travaillent sur d'autres maladies, par exemple l'arthrite, qui m'ont dit « Luc, il faut faire la même chose ». Il y a un potentiel, explique le chercheur. C'était un traitement prometteur pour des maladies auto-immunes découvertes aux Chutes de Québec. Un texte de Maria Wheeler, publié le 13 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada.
Un étiquetage nutritionnel sur de l'alcool donne une fausse impression de santé. Un texte de Jean-Benoît Legault de la Presse canadienne paru le 6 janvier 2026 dans Le Devoir. Les informations nutritionnelles qu'on retrouve sur certaines boissons alcoolisées portent les consommateurs à conclure, erronément, que ces produits sont bons pour la santé, ont constaté des chercheurs de l'Université Laval. Dans les faits, rappelle l'autrice principale de l'étude, aucune quantité d'alcool n'est sans danger pour la santé. L'alcool a vraiment été normalisé dans notre société, donc c'est vraiment un défi de communiquer aux consommateurs quels sont ses effets sur la santé, a dit Lana Vanderly, qui est professeure à l'École de nutrition de l'Université Laval et chercheuse au Centre Nutris de l'Institution québécoise. Au Canada, les boissons dont la teneur en alcool se situe sous 0,5% doivent afficher un tableau de valeurs nutritives sur leur contenant. Les boissons qui contiennent plus de 0,5% d'alcool sont exemptées de cette obligation, à moins qu'une allégation nutritionnelle, comme « moins de sucre », figure sur l'étiquette. Et lorsqu'il y a un tableau, la réglementation exige qu'il ait le même format que celui qui se trouve sur l'emballage des aliments. La présence d'un tel tableau sur l'étiquette d'un produit porte toutefois 3 personnes sur 10 à conclure qu'il s'agit d'un meilleur choix pour la santé qu'un autre produit qui n'en comporte pas, ont découvert la professeure Vanderly et ses collègues. Un effet halo santé. On dispose de preuves solides que la position d'étiquette d'avertissement sur le devant des bouteilles d'alcool permet de communiquer efficacement aux consommateurs les risques liés à la consommation d'alcool, a rappelé la professeure Vanderly. Mais parallèlement, nous parlons d'informations nutritionnelles, car plusieurs estiment que les consommateurs ont le droit de savoir ce que contiennent leurs boissons alcoolisées, a-t-elle ajouté. Le problème est que ces informations nutritionnelles ont un effet halo santé qui les fait automatiquement apparaître comme saines. On fait donc fausse route en supposant que l'ajout d'informations nutritionnelles sur les boissons alcoolisées permettra aux consommateurs de faire des choix éclairés, a ajouté la professeure Van der Lee, puisqu'avec l'alcool, le risque est là, peu importe la valeur nutritive. Donner à ces produits une apparence de santé n'est vraiment pas ce qu'on cherche comme résultat, a-t-elle dit. Différentes étiquettes, différentes impressions. Son équipe et elle ont mené une enquête en ligne auprès d'un peu moins de 4000 personnes. Les chercheurs ont présenté aux participants 4 étiquettes destinées à être apposées à l'arrière d'une bouteille de vin. La première ne présentait aucune information nutritionnelle, alors que la seconde portait un tableau d'informations nutritionnelles standard. Les étiquettes 3 et 4 présentaient sensiblement les mêmes informations, calories, sucre, mais l'une sous forme de texte et l'autre sous forme de tableau dont le titre ne faisait pas référence à la nutrition. À la vue de la deuxième étiquette, presque le tiers des participants ont estimé qu'il serait bon pour la santé de boire ce vin. Un participant sur 5 a répondu la même chose pour les étiquettes 1 et 4, et un participant sur 4 pour l'étiquette 3. Les chercheurs ont présenté aux participants 4 étiquettes destinées à être apposées à l'arrière d'une bouteille de vin. Université Laval. Les chercheurs ont présenté aux participants 4 étiquettes destinées à être apposées à l'arrière d'une bouteille de vin. Autrement dit, l'étiquette qui affichait le tableau d'informations nutritionnelles du même type que celui des aliments était plus susceptible d'inciter les consommateurs à conclure que le produit pouvait être bon pour la santé. L'information nutritionnelle crée la fausse impression que ces produits peuvent être bons pour la santé, a dénoncé la professeure Van der Lee, ce qui n'est pas le cas. Elle rappelle que l'alcool est un facteur important de mortalité et de maladie, dont 7 types de cancers, et qu'il n'y a pas de seuil minimal sécuritaire de consommation. On trouve les boissons alcoolisées dans nos épiceries, souvent sur les mêmes tablettes que les boissons sucrées ou les boissons énergisantes, a-t-elle conclu. Mais avec l'alcool, on parle d'une substance qui peut créer une dépendance psychoactive et qui est associée au cancer. C'était « Un étiquetage nutritionnel sur de l'alcool donne une fausse impression de santé ». Un texte de Jean-Benoît Legault de la Presse canadienne, paru le 6 janvier 2026 dans Le Devoir.